Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur de nos archives pour explorer un moment vraiment charnière de la création culturelle.
Ouais, un moment assez unique.
Complètement. Et pour le coup, on ne va pas s'appuyer sur le traditionnel communiqué de presse, tu sais, ce genre de document un peu aseptisé qui sort d'un ministère, ou même sur les colonnes d'une grande revue d'art international, non. L'exploration du jour nous emmène sur un terrain beaucoup plus inattendu, presque décalé en fait, mais d'une richesse incroyable. On va examiner à la loupe le bulletin numéro 57.
Un bulletin publié en mai 2014 par le Cartoclub Aveyronnais, pour être très précis.
Voilà. Sur le papier, c'est vrai que le contraste est savoureux. D'un côté, on a l'inauguration d'une institution culturelle monumentale dédiée à l'un des plus grands maîtres de l'art contemporain.
C'est ça.
Et de l'autre, on documente cette genèse à travers la publication d'une association de passionnés de cartes postales. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre la vision derrière la création du musée Soulages à Rodez en se concentrant exclusivement sur un joyau très spécifique de ce bulletin. C'est l'article intitulé « Entretien avec Benoît Decron, conservateur du musée Soulages ».
Et le choix de ce support, ben, il n'a rien d'anecdotique. Ce document, il prouve que les grands bouleversements culturels ne se vivent pas qu'à Paris ou dans les cercles très fermés du marché de l'art, quoi. Ils s'ancrent d'abord dans un territoire. Et l'entretien en question a été mené, rédigé et pensé par deux figures locales. On parle de Gilbert Régour et de Guy Mazard.
Le niveau de détail, le sérieux de l'approche éditoriale saute vraiment aux yeux dès la lecture. On sent qu'il y a un enjeu émotionnel énorme pour la région.
Ah, totalement. Et le travail de Guy Mazard mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête un instant. Il n'est pas seulement co-auteur de cet entretien, il porte aussi la casquette de rédacteur en chef du bulletin et c'est lui qui en a conçu toute la mise en page.
Ce qui n'est pas une mince affaire, hein.
Exactement. Mettre autant de soins éditoriaux, de rigueur dans le choix des mots et de l'iconographie pour une revue associative, bah ça démontre une véritable appropriation locale. C'est la preuve tangible que la ville ne subit pas l'arrivée de ce grand musée comme un vaisseau extraterrestre qui se poserait là par hasard. Les habitants, et ici spécifiquement les collectionneurs, s'en emparent et l'intègrent à leur propre histoire.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Si l'on veut vraiment saisir l'envergure du projet à ce moment précis, en 2014, il faut s'intéresser au pilote dans l'avument. L'article s'ouvre logiquement sur le profil de Benoît Decron. Pourquoi lui, en fait? Qu'est-ce qui justifie qu'on lui confie les rênes d'un chantier pareil?
Alors, les dates et les lieux qui sont mentionnés dans l'entretien tracent vraiment la carte d'un professionnel du terrain. Decron, il prend la direction du pôle des musées de l'agglomération de Rodez en 2009.
Et ce pôle, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien du tout, puisqu'il chapeaute à la fois le futur musée Soulages, mais aussi le musée Fenaille, qui est très connu pour ses statues menhirs. Mais son arrivée en 2009 n'est que la pointe de l'iceberg. Le document détaille bien son parcours antérieur. De 1989 à 1998, il forge ses armes au musée de Langres. Puis, il passe 11 longues années en tant que conservateur du musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sable-d'Olonne.
20 ans de direction muséale en région avant même de poser le pied à Rodez. Ce détail, il est crucial. Piloter un musée hors des grandes capitales européennes, ça demande un profil bien particulier.
C'est clair.
Il ne suffit pas de connaître ces catalogues d'art par cœur. Il faut savoir gérer des relations avec des collectivités locales, jongler avec des contraintes logistiques super complexes et surtout savoir attirer un public dans une ville qui n'est pas forcément sur les circuits touristiques traditionnels de l'art contemporain.
Tout à fait. Et l'entretien insiste lourdement sur son expertise en art moderne et contemporain, mais aussi sur son expérience très concrète dans l'organisation de multiples expositions, particulièrement au Sable-d'Olonne.
Donc c'est un homme de terrain.
Voilà. Le message en filigrane est limpide. Pour un projet impliquant la donation monumentale d'un artiste du calibre de Pierre Soulages, il fallait un bâtisseur. Quelqu'un capable de penser l'architecture, la scénographie, la conservation, tout en dialoguant avec les élus et le public. On a choisi un homme de dossier lourd et de chantier ambitieux.
D'ailleurs, en parlant de dialogue, il y a un passage de l'interview menée par Gilbert Régour et Guy Mazars qui m'a fait marquer un vrai temps d'arrêt. Les auteurs lui posent la question la plus évidente qui soit. Connaissait-il Pierre Soulages avant de postuler?
Et c'est une excellente question.
Ben oui, on parle d'un musée qui porte le nom d'un homme vivant, on s'attend logiquement à ce que le conservateur fasse partie du cercle des intimes, ou du moins qu'il ait collaboré étroitement avec l'artiste par le passé. Et la réponse de Benoît Descron tient en un mot. Non.
Ce qui est absolument fascinant ici, c'est la dimension stratégique que révèle cette réponse. Ne pas être un familier de l'artiste, ça change toute la dynamique de la curation.
C'est sûr.
Decron explique que ce qui l'a attiré, c'est le défi professionnel en lui-même. Il souligne qu'il trouve, je cite, « absolument passionnant de travailler avec un artiste en activité ». En histoire de l'art, la norme pour un conservateur, c'est plutôt l'interprétation posthume. On décrypte des correspondances jaunies, on émet des hypothèses sur la volonté d'un créateur disparu depuis des décennies ou même des siècles.
C'est un peu comme être chargé d'écrire la biographie définitive d'une figure historique, sauf que ladite figure est assise dans le bureau d'à côté.
Ouais, c'est exactement ça.
Elle est bien vivante, avec son caractère, ses exigences, et elle continue de peindre de nouvelles toiles tous les matins, ça doit être vertigineux.
La comparaison illustre parfaitement le vertige de la situation, oui. Cette distance initiale entre Decron et Soulages est probablement ce qui a permis d'éviter le piège du mausogée ou de la simple célébration aveugle.
Il avait le recul nécessaire.
Exactement. Le conservateur apporte un regard clinique, professionnel, structurant face à la matière brute de l'artiste. Il n'est pas là pour faire acte de dévotion, il est là pour construire une institution pérenne. D'ailleurs, l'humilité de Decron transparaît très clairement dans la suite de l'entretien. Quand on l'interroge sur l'accrochage des œuvres, qui est une étape cruciale et hautement symbolique, il efface face que son rôle individuel.
Il parle d'une expérience partagée, si je me souviens bien de la lecture du bulletin.
Oui. Il insiste sur le fait que ce moment unique a été partagé par toute l'équipe du musée. Et il prend le temps de qualifier le travail de cette équipe de remarquable. Cette volonté de mettre en avant la dimension collective du projet montre qu'il se conçoit davantage comme un chef d'orchestre que comme un conservateur isolé dans sa tour d'ivoire. Il sait que la réussite d'une telle machinerie repose sur les techniciens, les régisseurs, les médiateurs.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que monter les murs, accrocher les œuvres de Soulages et couper le ruban d'inauguration, c'est finalement la partie la plus visible, mais peut-être pas la plus difficile. La vraie question posée dans ce bulletin du Cartoclub concerne ce qu'ils appellent l'élargissement.
L'après-inauguration, ensemble.
Voilà. En lisant ces réponses, on a la sensation tenace que le plus grand cauchemar de Benoît Decron, ce serait que son musée devienne un simple reliquaire statique. Est-ce que cette volonté d'ouverture n'est pas une question de survie pure et simple pour un musée monographique âge ?
Si l'on relie cela à une vision plus globale de l'écosystème muséal, c'est clairement l'enjeu majeur de la décennie pour Rodez. L'entretien détaille une stratégie très offensive sur ce point. L'ambition de Decron, ce n'est pas seulement de montrer du soulage. Son plan de bataille, qu'il qualifie d'extrêmement important dans l'article, consiste à tisser un réseau dense avec de grands musées en France et surtout à travers l'Europe.
Et comment ça se matérialise, ça ?
Eh bien, le mécanisme concret de cet élargissement, c'est l'organisation, chaque été, d'une grande exposition temporaire dans une salle vaste et spécifiquement dédiée à cet usage.
Donc l'exposition estivale, c'est vraiment le moteur de l'attractivité. On comprend bien l'idée. Le visiteur de la région, ou même l'amateur d'art européen qui a fait le voyage exprès pour voir la collection permanente de Soulages la première année, a besoin d'une raison impérieuse pour revenir 2 ans plus tard.
C'est indispensable pour fidéliser le public.
Oui, parce que si le musée est figé, on le coche sur sa liste de choses à voir et on n'y remet jamais les pieds. Mais en attirant des collaborations avec d'autres musées majeurs d'Europe, Rodez se positionne comme un vrai carrefour. Ça rappelle à quiconque gère des projets de grande envergure qu'un lancement, c'est que la première étape. Le réseau et le renouvellement, c'est la clé de la pérennité.
L'audace est vraiment là. Il ne s'agit pas de faire venir de petites expositions d'appoint, mais d'ancrer une ville de l'Aveyron sur la carte très compétitive de l'art contemporain international. Gérer ce genre de partenariats européens exige une logistique impeccable, des assurances astronomiques et une capacité de négociation féroce. Le fait que Decron mentionne cela comme une priorité absolue dans un entretien publié au tout début du musée prouve qu'il voyait déjà 5 ou 10 ans plus loin. Le bâtiment n'était qu'un outil pour atteindre ce rayonnement global.
Ce qui nous ramène, par un contraste assez réjouissant, à la nature même du document que nous décortiquons. Et à un côté presque comique, ou du moins profondément attachant, à lire une vision aussi élitiste et internationale de l'art contemporain au milieu d'un bulletin édité par le Cartoclub Aveyronnais.
C'est le grand écart.
Totalement. On parle de loutre noire, de ces toiles monumentales qui jouent avec la lumière, d'ambitions européennes gigantesques. Et la source de notre analyse reste une revue de passionnés de cartes postales. On se demande forcément comment l'équipe de Guy Mazard a choisi d'illustrer un tel propos.
Le choix de l'illustration révèle justement toute la finesse éditoriale de la revue. Pour accompagner cet entretien dense sur les enjeux muséaux contemporains, le bulletin s'appuie, très logiquement compte tenu de son ADN, sur une carte postale. Mais attention, pas n'importe laquelle. Le texte précise bien qu'il s'agit d'une carte postale moderne, ce que les collectionneurs désignent par l'acronyme CPM. Elle a été éditée en 2011 par l'Office de tourisme du Grand Rodet.
Et le soin du détail va jusqu'à créditer rigoureusement les images qui la composent, non ?
Absolument. Le bulletin prend soin de mentionner les trois photographes à l'origine des clichés illustrant cette CPM. On parle de Vincent Cunillière, P. Soisson et J.F. Perret. Cette précision factuelle n'est pas qu'une simple courtoisie entre professionnels. Elle ancre l'œuvre abstraite de Soulages et le projet architectural du musée dans la réalité très concrète de l'iconographie locale.
La rencontre des deux mondes est géniale. On a l'œuvre d'un monstre sacré qui est censé être vu dans des volumes vertigineux, et là, elle est capturée et réduite au format standard de 10 par 15 cm sur du papier glacé qu'on achète dans un présentoir pivotant pour l'envoyer avec un timbre assez proche.
C'est la démocratisation de l'art, dans toute sa splendeur.
Et là, le plus radical qui rencontre le vecteur d'image le plus populaire du monde, la carte postale touristique. Et là, le rôle de concepteur de la mise en page de Guy Mazard prend tout son sens. Il a dû créer un pont visuel et intellectuel pour que cette interview très pointue trouve sa place au milieu d'une revue de cartophilie sans que cela paraisse incongru une seule seconde. C'est un mariage inattendu entre la modernité la plus absolue et la grande tradition de la collection locale.
Ce pont visuel rappelle que l'art, aussi conceptuel soit-il, finit toujours par se matérialiser dans le quotidien des gens qui l'entourent. La carte postale éditée par l'Office de tourisme devient la preuve imprimée, presque le certificat de naissance populaire de cette métamorphose culturelle. Le musée n'appartient plus seulement aux critiques d'art, il devient un élément du paysage, un souvenir de vacances, un objet de collection pour le Cartoclub.
Alors, que doit-on retenir de tout cela ? Si l'on prend un peu de recul sur les différentes facettes de ce bulletin 57, l'image qui se dessine est celle d'un alignement des planètes. C'est la rencontre entre l'ancrage local d'un créateur immense, la vision pragmatique mais infiniment ambitieuse d'un conservateur expérimenté comme Benoît Decron et la volonté de toute une région de ne pas rester en marge des grands flux culturels européens.
Un bel équilibre.
Et le tout figé dans le temps par le travail d'archives minutieux de Gilbert Regourd et Guy Mazard.
L'enseignement principal, du point de vue de l'analyse documentaire, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la valeur historiographique des publications de passionnés. La grande histoire des institutions s'écrit bien sûr dans les actes officiels et les rapports ministériels. Mais la ferveur, les interrogations et les ambitions du moment présent sont souvent capturées avec beaucoup plus de sincérité par les revues associatives locales. Ce sont ces documents qui racontent l'impact réel d'un tel projet sur le tissu social et culturel d'une région.
L'histoire vue de l'intérieur, en somme.
Exactement. Et cela amène inévitablement une réflexion beaucoup plus large sur la nature de ce type de projet muséal. Ce document met en lumière à quel point l'excitation du défi résidait dans le fait que Soulages était en activité. Le conservateur, la ville, l'équipe du musée, tous se sont mobilisés autour d'un créateur vivant. Mais la nature même de la vie impose une limite temporelle à cette dynamique.
Ce qui soulève une question vertigineuse pour l'avenir.
Oui, ça donne matière à réflexion. Comment l'âme d'un musée conçu dans le dialogue permanent avec son créateur survit-elle lorsque la voix de ce dernier s'éteint ? Une fois que l'artiste n'est plus là pour valider, contester ou orienter le regard sur ses propres toiles, par quel miracle le musée parvient-il à rester un lieu vivant et à ne pas se transformer lentement en un reliquaire mélancolique ? C'est le défi silencieux qui attend chaque fondation monographique et qui redéfinit entièrement la mission de ceux qui en ont la garde.